Géopolitique. Éric Bataillon.
Bonjour. La Turquie est-elle à la croisée des chemins? Alors que les manifestations du 11 janvier dernier en France et dans de nombreuses villes d'Europe ou d'ailleurs ont clairement rappelé les États modernes à leurs fondamentaux, liberté d'expression, liberté d'opinion, système politique favorisant le libre choix des individus, la Turquie semble hésiter. Certes, elle était représentée dans la gigantesque manifestation parisienne aux côtés des autres chefs d'État et de gouvernement représentés par son Premier ministre. Certains s'en sont d'ailleurs émus. Mais sur le plan intérieur, on ne peut pas dire que les fondamentaux rappelés il y a un instant soient la tasse de thé du pouvoir actuel. Et Ankara est régulièrement accusé de ne rien faire pour empêcher le passage des candidats au djihad en Syrie. Où en est le modèle turc qui faisait de ce pays l'un des rares au monde à être officiellement laïque? Quelles sont les relations entre le pouvoir central et les fortes minorités qui composent le pays, qu'elles soient ethniques comme les Kurdes ou religieuses comme les Alevis? Quel rapport l'État turc entretient-il avec ses voisins syriens et irakiens et aussi avec l'Union européenne? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Avec nous en studio, Nora Hacheni, bonjour.
Bonjour.
Professeure à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Vous avez également coordonné le numéro 148 d'Hérodote sur une géopolitique de la Turquie avec Béatrice Gibelin. Et par téléphone depuis Reims, où vous êtes en déplacement, Behram Balci, bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Paris, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie, notamment sur le mouvement Gulen. Dans un discours prononcé le 26 septembre dernier, le nouveau Premier ministre Ahmet Davutoğlu souhaitait voir les commerçants des centres commerciaux du pays démarrer la journée de travail par des prières collectives avec leurs employés. Nora Hacheni, à n'en pas croire ses oreilles lorsque l'on connaît la farouche volonté du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal, d'ancrer le pays dans la sécularité, la société turque est-elle en train de progressivement s'islamiser? Et si oui, quels sont les autres signes de cette islamisation?
Ce qui est incontestable, c'est que le pouvoir, le gouvernement AKP et le président de la République, son premier ministre, œuvre activement pour, en effet, islamiser plus les modes de vie, les modes de pensée que la transformation des institutions de l'État. C'est plus dans la façon de penser et dans les principes qui légitiment les décisions et les inclinaisons, les nouvelles orientations données à la politique turque. Notamment quand il s'agit par exemple de la Syrie, l'intervention politique de la Turquie pour faire partir le gouvernement en place en Syrie, il y a déjà 2 ans de ça, étaient des arguments religieux. Tayyip Erdogan disait par exemple, que nous dira-t-on dans l'autre monde une fois qu'on sera mort, n'est-ce pas? Tu n'as pas aidé ton frère musulman, et en citant des vers, des sourates du Coran, que les gens ne connaissent pas d'ailleurs forcément.
On y reviendra tout à l'heure sur la Syrie dans la deuxième partie de l'émission. Behram Balci, est-ce que cette islamisation rampante était vraiment une réalité, et est-ce qu'elle a un lien avec le mouvement Gulen qui a accompagné la montée au pouvoir de Erdogan?
Je dirais qu'il y a plutôt une espèce d'acheminement vers une société beaucoup plus conservatrice. Il y a le développement d'un véritable conservatisme en Turquie, qui peut avoir aussi une certaine islamisation des mœurs, comme l'a dit tout à l'heure Nora. Mais en ce qui me concerne, je rajouterais quelque chose de très important, c'est qu'il me semble que ce parti au pouvoir qui a entamé récemment son troisième mandat, durant son premier mandat, on avait l'impression qu'il était beaucoup plus libéral, ouvert, respectueux des différences, même des élites séculières, mais que petit à petit, pour des raisons à la fois de politique intérieure et extérieure, il s'est refermé un peu pour devenir beaucoup plus conservateur. Au niveau de la situation internationale, il faut bien rappeler que, d'une manière générale, dans toute la région, il y a l'augmentation des tensions, des conflits en Syrie, en Irak, et aussi en Ukraine. Je pense que c'est quelque chose qui oblige fondamentalement le gouvernement à se replier sur lui-même. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que je pense que jusqu'à une période récente, il n'y avait pas d'opposition politique forte, structurée dans le pays. Et à partir du moment où une opposition s'est formée, il est obligé de se replier sur ses bases conservatrices pour mieux défendre ses intérêts durant les élections. Pour ce qui est de la politique de la Turquie en Syrie, Nora l'a dit, effectivement, il y a des arguments, il y a des positionnements religieux, mais je crois que dès le départ, il y a beaucoup plus des intérêts politiques et géostratégiques à défendre que purement religieux, même si effectivement, petit à petit, l'aggravation du conflit, le fait que le conflit s'est transformé en conflit un peu confessionnel, sectaire en Syrie, c'est une chose qui a aussi eu un certain nombre d'impacts sur l'ensemble des pays de la région, qui ont été dans une certaine mesure obligés de se positionner sur des clivages sunnites, chiites, religieux.
Nora Cheni, est-ce qu'une opposition forte a émergé en Turquie ces dernières années, notamment après la place Gezi en 2013?
Je voudrais d'abord revenir sur le dernier argument de Bayram Balcı. C'est vrai que les vraies raisons de la position turque dans la question syrienne n'est pas du tout fondée sur des éléments religieux, mais la façon de le faire passer dans l'opinion publique s'appuie sur des arguments religieux. C'est de ça que je veux parler, c'est-à-dire ce qui normalise la vie publique est de plus en plus empreint de références religieuses. Et donc les gens doivent se former à ces références pour comprendre ce qui est dit. Pour revenir à la question de l'opposition constituée en partie est extrêmement faible au gouvernement de Monsieur Davutoğlu aujourd'hui et de Erdogan il y a encore un an. Ceci dit, en ce qui concerne donc les partis politiques, ils sont fragmentés. Il y a quand même 50% de la population qui n'a pas voté pour ce gouvernement, mais ce sont des partis différents, assez inconciliables entre eux. Et en ce qui concerne le mouvement Gezi, le mouvement a eu, peut-être à tort, à cœur de ne pas faire émerger des leaders. Donc il n'y a pas eu de leadership réel qui puisse se muter, se muer après en leader politique, fondateur de nouveaux courants politiques et de nouveaux partis constitués.
Même le parti kémaliste n'a pas pu fournir de bons candidats, un bon leader.
Non, certainement pas. Ils ont choisi d'essayer de battre l'AKP au pouvoir avec des candidats qui ressemblent, qui puissent concurrencer l'aspect conservateur religieux de cette formation, de l'AKP. Et ils ont eu tout faux là, de ce point de vue.
Behram Balcı, est-ce que l'islamisation que l'on ressent à propos de la Turquie, est-ce qu'elle touche directement les institutions ou est-ce que c'est simplement la société civile, j'allais dire, qui est touchée par cette augmentation de la présence de la religion dans la vie quotidienne?
Moi, je pense qu'au niveau des institutions, l'islamisation de la Turquie est encore un peu... n'est pas encore trop inquiétante, à mon sens. Effectivement, il y a beaucoup plus une islamisation des mœurs, dans la vie quotidienne, le rapport à la place de la femme, les lieux de consommation d'alcool, l'interférence du pouvoir dans la vie privée des gens, genre, par exemple, peut-être beaucoup plus d'enfants, etc. L'introduction des cours en ottoman dans les écoles, ça fait partie, je dirais, de beaucoup plus d'un certain renouveau identitaire. Et je dirais qu'il faudrait pas voir ça sous forme d'islamisation du pays, mais une forme de retour au conservatisme, une espèce de fétichisme, un regard fétichiste du passé ottoman. Bon, il y a pas mal de parallèles assez utiles avec la Russie, avec Poutine, dans le sens où il y a une nostalgie du passé impérial, l'introduction d'un certain nombre de symboles pour rappeler la grandeur ottomane. Et en cela, je pense que moi, je ne crois pas, je n'ai pas peur de l'islamisation de la Turquie, parce que au fond, la sécularité de la population turque est comme assez attachée là au sécularisme, et je ne pense pas qu'on puisse avoir des inquiétudes vraiment fortes sur le changement possible de la Turquie, de ses institutions et de son régime séculier. Je ne pense pas.
Alors, Nora Cheni, à l'instant, Bayram Balcı parlait de la question scolaire, qui est une question quand même assez importante. On le voit depuis la rentrée de septembre 2014, avec l'obligation pour un certain nombre d'élèves de finalement suivre des cours de religion sunnite, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas, même s'ils sont parfois musulmans, comme les Alevis, par exemple. Ça, c'est une question qui me paraît fondamentale quand même.
Oui, alors pour répondre à la question des institutions, justement là où il y a sans doute des modifications importantes et qui auront des conséquences après, une génération plus tard sur les institutions, c'est en effet les réformes scolaires. Mais avant de parler des réformes scolaires, sur la question que vous posiez à Bahram Baljeh, je dirais que la pression du chromatisme de ce gouvernement, on la sent sur sa volonté de modifier les modes de vie. Le combat aujourd'hui jusqu'aux nouvelles législations concernant l'école se limitait à imposer des nouvelles normes dans les modes de vie. Voilà, c'était un combat de mode de vie entre une vieille bourgeoisie, enfin vieille, pas très vieille, elle date de l'après-deuxième guerre mondiale, une vieille bourgeoisie laïque, séculière, et la nouvelle, parce qu'il y a des nouvelles classes moyennes et supérieures qui sont en effet d'inspiration conservatrice et qui ont un autre mode de vie. Donc il y a deux modes de vie, et c'est là-dessus que la grande opposition, la polarisation a beaucoup insisté, la polarisation dont Tayyip Erdogan était le porteur. Hein, ça a été une stratégie tout à fait pensée de polariser la société entre deux types de modes de vie. Bon, donc aujourd'hui, il y a un cran de plus qui est réalisé dans cette veine-là, c'est en effet la modification de la législation scolaire. Les enfants, à partir du secondaire, arrivent dans le secondaire à travers des concours nationaux. Et ces concours nationaux décident de la distribution, de l'affectation des enfants dans des écoles, et les normes de cette affectation, de ces affectations ont changé, de façon à ce que des familles qui n'avaient pas choisi des écoles religieuses retrouvent leurs enfants dans des écoles affectées dans des écoles religieuses. Ça, c'est un aspect. Et les écoles qui sont d'inspiration laïque dans des environnements qui n'ont pas été touchés par l'inspiration AKP conservatrice, comme des villes très touristiques comme Antalya par exemple, dans ces écoles-là, on voit qu'il y a une pression sur les jeunes filles, sur les adolescentes, pour que les jupes soient plus longues, qu'elles portent plutôt un pantalon, avec des accusations et des stigmatisations traumatisantes.
D'ailleurs, ça c'est une forme de pression de l'islam sunnite, purement sunnite en l'occurrence, puisque beaucoup de ces jeunes filles, par exemple, sont d'autres religions, notamment les alévis, qui sont beaucoup plus progressistes et beaucoup plus, entre guillemets, laïques que
et beaucoup plus libérales dans leur mode de vie. Et ils sont les alévis sont traditionnellement votent traditionnellement pour le parti social dit social-démocrate, et aujourd'hui on l'appelle kémaliste, ce que j'aime pas tellement ce terme, mais c'est un terme en effet pour désigner ce parti qui est ancien et qui a une tradition marquée par l'étatisme.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Bahram Baljeh, est-ce que justement ces changements au niveau scolaire peut avoir une influence, et notamment est-ce que c'est la marque que le pouvoir voudrait favoriser une religion en particulier, le sunnisme, par rapport à toutes les autres, dont la religion alévie, qui est quand même représente à peu près entre 15 et 25% de la population?
Alors, à ce propos, je dirais deux choses. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas la peine de se focaliser sur l'aspect changement des institutions, parce que ça, on a bien compris que dans l'ensemble du monde musulman, à l'heure actuelle, l'idée, c'est pas d'islamiser l'État, parce qu'on a bien vu dans beaucoup de pays où on a essayé de faire ce que je pense que ça ne marche pas. Donc, je pense que la priorité aux gens de pays, c'est d'essayer de changer la société de la rendre beaucoup plus conservatrice. Ça, c'est la première. Par ailleurs, par la question des alévis, il est souvent reproché à Erdogan de mener une politique pro-sunnite, etc. Je pense que là aussi, il y a un aspect vrai, incontestable, mais je pense qu'il y a aussi un peu d'exagération dans le sens où il y a quand même eu ces dernières années quelques tentatives pour reconnaître pour donner un statut aux alévis. Et je donne un exemple très concret, par exemple, dans ce qu'est la Diyanet. La Diyanet, donc l'équivalent d'une sorte de ministère des affaires religieuses. Et en fait, ces derniers mois, il est souvent reproché à cette Diyanet pour qu'elle tienne compte des besoins religieux des alévis. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que dans les prochains mois, l'autre réforme introduite en Turquie soit de reconnaître un peu la spécificité et la particularité des Alevis. Je pense qu'il est conscient du fait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Bien évidemment, il se comporte en sunnite parce qu'il a aussi des objectifs électoralistes et en Turquie, les sunnites sont beaucoup plus nombreux que les Alevis, et puis c'est par définition que les Alevis ils vont voter de toute façon pour ses adversaires politiques. Mais je pense qu'il y a quand même aussi, on décèle une volonté de sa part d'essayer d'introduire une ouverture, un engagement, un dialogue vers les Alevis pour essayer de régler ce problème qui, après la question kurde, est le problème fondamental qui pose problème en Turquie.
Vous écoutez RFI, l'émission géopolitique, le débat consacré à la Turquie. Alors, en juin 2013, une manifestation de citoyens, on en a parlé tout à l'heure, et d'écologistes, opposés à la destruction programmée d'un parc dans le centre historique d'Istanbul, a rapidement dégénéré. C'était l'affaire du parc Gezi. Ce mercredi, dans la semaine, donc, deux des policiers et trois commerçants de la ville qui avaient battu à mort un jeune manifestant de 19 ans ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 10 ans, alors que le procureur avait requis la réclusion à perpétuité contre les policiers. Le président Erdogan est accusé d'avoir fait pression sur les juges. Nora Seni, cette accusation vous paraît-elle plausible ?
Plausible, elle l'est en effet, surtout si on tient compte de toute la purge dont le judiciaire a été victime ces derniers temps. C'est une purge organisée par Tayyip Erdogan, oui bien sûr. Mais il faut savoir que ce jeune homme est mort, c'est à Eskişehir, il est mort parce qu'il a été tabassé par des policiers c'est avéré par des vidéos, etc. Et c'est en effet une peine tout à fait insignifiante au vu du crime commis. Mais il faut dire que en Turquie, des crimes de ce genre, notamment sur les Alevis d'ailleurs, il y a 20 ans, à Sivas, il y a eu des gens sont morts, des Alevis sont morts parce qu'ils étaient dans un hôtel auquel la population a mis le feu parce qu'ils étaient Alevis. On n'a jamais retrouvé on n'a jamais puni les responsables.
Bayram Balci, le président Erdogan est souvent accusé d'être à la fois autoritaire et islamiste. Enfin, on l'accuse d'avoir une dérive autoritaire et islamiste, plus exactement. Est-ce que vous partagez cette opinion qui est quand même assez largement répandue et qui a d'ailleurs été cette semaine proclamée dans le prétoire de ce jugement?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à sur ce qui est accaparement de la justice et confusion des pouvoirs. Je pense qu'effectivement, il y a une véritable confusion des pouvoirs depuis quelques mois en Turquie. Et Erdogan, il a tendance à ne pas faire la part des choses. Mais je crois qu'il faut mettre ça dans le contexte des ennuis qu'il a eu avec ses anciens alliés de la mouvance, de la nébuleuse de Fethullah Gulen. Je pense que là, il y a une espèce de contrôle complet à part entière de la police, de la procurature, c'est parce qu'il sait qu'il y avait des vrais dangers. Et je pense qu'il avait peur qu'il y ait une espèce de coup d'état civil contre lui pour le destituer dans le cas des affaires de corruption, etc. C'est la première. Et bien évidemment, il y a un tel niveau de confusion des pouvoirs que, de fait, il est indéniablement vrai qu'il y a une espèce de renforcement, il y a un autoritarisme qui se passe en Turquie à l'heure actuelle. Mais je peux penser au régime politique qu'avait connu la Turquie après la mort de Atatürk, c'est le règne d'un seul homme, le leader national, le chef national. Alors là aussi, il y a un renforcement, il y a un autoritarisme incontestable en Turquie, mais je pense que pour le comprendre, il faut aussi le mettre dans le contexte régional. Si on ne regarde pas ce qui se passe autour de la Turquie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Turquie. Regardez ce qui se passe en Syrie. Et je ne dis pas ça pour pardonner, pour cautionner ou je ne sais quoi, c'est que le renforcement des systèmes autoritaires dans les pays voisins, la guerre civile en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Ukraine, je pense que tout cela ne peut que contribuer. Par ailleurs aussi, les déceptions que la Turquie a eues avec les Européens, le fait que l'Europe ne donne pas du tout de signe d'intégration, je pense que tout cela ne fait que contribuer à l'autoritarisme du pouvoir en Turquie. Et il en est responsable au premier, mais je pense qu'il faut se mettre ça dans le contexte de la région. Et l'évolution de l'avenir fait qu'en fait, je ne suis pas du tout optimiste, malheureusement, pour l'avenir de la Turquie.
On en parlera donc dans la deuxième partie de l'émission, aussi bien les voisins les plus proches, notamment la Syrie, que l'Union européenne. Vous écoutez Géopolitique, le débat sur RFI, consacré à la Turquie. On marque une pause, le temps de prendre connaissance des dernières informations avec...
Géopolitique, Éric Bataillon.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour parler de la Turquie et de ses ambiguïtés apparentes ou manifestes. Nous avons abordé celles que le gouvernement entretient avec la religion, avec les minorités et avec ses opposants de l'intérieur. Abordons maintenant les ambiguïtés turques vis-à-vis de ses voisins régionaux ainsi que vis-à-vis de l'Union européenne. Alors la première des ambiguïtés concerne donc la Syrie, pays avec lequel la Turquie partage une très longue frontière aux environs de 800 km. Bayram Haji, Ankara a-t-elle une lecture différente de celle des Européens ou des Américains concernant la situation en Syrie? On lui reproche fréquemment, par exemple, son peu d'empressement à intervenir contre les groupes armés extrémistes de Daesh ou d'Al-Nusra.
Je crois que oui. Sur l'ensemble de l'évolution de la politique de la situation en Syrie, on a l'impression qu'au départ, il y avait un alignement, une position commune entre la Turquie et ses partenaires occidentaux, avec la France notamment, beaucoup plus qu'avec les États-Unis. Au départ, en tout cas au début de la crise, je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde disait, aussi bien François Hollande que lui et même les États-Unis, c'était « il faut que Bachar parte ». Il y avait une position commune. Par ailleurs, ensuite, quand il y a eu l'utilisation des armes chimiques et que les États-Unis, qui avaient promis d'intervenir, ne l'ont pas fait, la France était prête à intervenir avec la Turquie. Et là, je pense que le début de divergence a commencé là. Et là aussi, je trouve qu'il y a une espèce d'incompréhension des Occidentaux de difficultés que vit la Turquie. Et c'est à partir de là que la Turquie a commencé à être un peu ambiguë, ambivalente, et parfois même à décevoir ses alliés occidentaux dans la mesure où elle n'a pas su, elle n'a pas voulu, ou n'a pas pu, je dirais même, se comporter d'une manière à satisfaire ses partenaires occidentaux, notamment vis-à-vis quand on a commencé à voir l'émergence d'un véritable phénomène djihadiste en Syrie. Et je pense que le point de départ, il a commencé là.
En fait. Vous voulez dire que, en fait, la Turquie attendait des Occidentaux qu'ils fassent partir Bachar el-Assad et que c'était la première exigence turque?
Mais c'est-à-dire que c'était l'objectif de tout le monde. Je me souviens quand il y avait les différentes réunions des pays amis de la Syrie, aussi bien la France que les États-Unis et la Turquie, la communauté internationale dans une large mesure, bien évidemment à part la Russie, l'Iran et la Chine, l'idée c'était il faut qu'ils partent. L'idée était que plus on hausse le ton contre le régime de Bachar el-Assad, plus vite il partira. Sauf que les choses ont évolué différemment. Et les Occidentaux qui sont loin, qui n'ont pas une frontière de 900 km avec la Syrie, pour eux, c'est de continuer à avoir cette position. Mais pour la Turquie, cette position est devenue intenable. Parce qu'il y a eu l'aggravation de la question kurde, le problème des réfugiés, le fait que le pouvoir s'est affaibli en Turquie parce que les opposants à l'intervention de la Turquie en Syrie, en fait, qu'ils sont mobilisés et ça fragiliser le pouvoir en Turquie, et tout cela l'a amené à prendre des mesures, à adopter des initiatives complètement impopulaires et je veux dire même irresponsables, notamment ces relations un peu ambiguës, voire même amicales avec certains djihadistes en Syrie.
Oui. Nora Chini, cette ambiguïté de la Turquie.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la priorité de la Turquie pour tout ce qui concerne les conflits du Moyen et Proche-Orient, la priorité de la Turquie, c'est le changement de régime en Syrie. La Turquie soumet le reste de ses positions là-dessus. Quand il a été question de Kobané, par exemple, de sa position à Kobané, la position officielle de la Turquie était d'accord pour aider les gens de Kobané, mais d'abord, tournons nos fusils, c'était la formulation de Tayyip Erdogan, vers la Syrie. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas complètement tort. Et il faut savoir que la Syrie a fait quand même tomber un avion turc par mégarde ou par, on ne sait pas très bien, mais si le régime reste en place, avec la géographie locale, ça va devenir intenable pour la Turquie. Donc la priorité, en effet, c'est la chute du régime d'Assad en Syrie.
Est-ce que cette position de la Turquie n'est pas quand même dictée par des questions intérieures? Par exemple, la chute de Bachar el-Assad voulait peut-être dire une forme de partition, en tout cas de régionalisation de la Syrie, et donc l'apparition d'une partie kurde en Syrie qui aurait pu influencer la partie kurde en Turquie, etc.
Que la question kurde pondère les positions de la Turquie dans cette région, c'est une évidence. Mais en ce moment, je crois que si on faisait une hiérarchie des priorités, la priorité, c'est la chute du régime, d'abord de la Syrie, la stabilisation de la Syrie, en effet, avec sans doute un régime qui contrôlerait ces Kurdes. Mais la position de la Turquie sur la question kurde s'est modifiée, notamment vis-à-vis des Kurdes irakiens, où elle fait affaire avec les Kurdes irakiens. Donc, on peut voir pour la première fois la question énergétique régionale, non pas comme un élément de dissension et d'opposition, mais au contraire comme un élément pacificateur. C'est comme ça que ça s'est joué finalement pour la frontière irako-turque, avec les Kurdes étant un passeur, si vous voulez, quasiment de paix puisque c'est directement avec le Kurdistan irakien que la Turquie fait ses achats en énergie. Le pétrole et le gaz irakien part vers l'Europe à travers la Turquie. Donc voilà un élément où la question énergétique joue un rôle pacificateur. Donc, pour revenir à votre question, la question kurde, en effet, est un autre élément de majeur de cette politique régionale.
Alors maintenant, les groupes djihadistes qui sont en Syrie, Bayram Balji, on sait que d'abord des ressortissants turcs ont été enlevés par l'organisation État islamique. On sait aussi que l'organisation État islamique a pendant un temps menacé cette enclave turque en Syrie qui contient le mausolée de Süleyman Shah. Est-ce que la Turquie s'est sentie d'une certaine façon visée par l'organisation État islamique, ce qui pourrait éventuellement expliquer une certaine tolérance vis-à-vis de tous ces jeunes djihadistes venus d'Europe qui passent la frontière d'une façon assez aisée finalement?
Là aussi, si vous permettez, je rajouterai quelques éléments par rapport à la question précédente. C'est que, effectivement, la question kurde, le facteur kurde est fondamental dans le positionnement de la Turquie en Syrie, donc en Syrien. Ça, c'est fondamentalement important depuis le début, parce que n'oublions pas que la question kurde, c'est le principal problème en Turquie depuis 40 ans. La question kurde, le PKK s'est renforcé grâce à ses séjours en Syrie pendant longtemps. Par ailleurs, quand la Turquie a pris position contre le régime de Bachar al-Assad, la manière dont Bachar a su utiliser le facteur kurde pour punir la Turquie. Et par ailleurs, je dirais que le conflit en Syrie, pour la Turquie, a été à la fois un élément accélérateur pour la résolution de la question kurde et aussi un frein. Un facteur qui a favorisé, parce que la Turquie elle a été obligée de tenir compte du facteur kurde pour accélérer le processus de dialogue avec le PKK en Turquie. Il se passe quelque chose d'historique en Turquie. Il y a un changement de paradigme. Il y a un vrai dialogue d'une manière ouverte et officielle entre l'État turc et le PKK, ce qui est quand même assez historique. Et par ailleurs, je dirais aussi que c'est devenu aussi un facteur de frein, parce que la question kurde s'est renforcée, tellement renforcée en Syrie que, à un moment, en fait, on avait l'impression que la partie kurde commençait à faire monter un peu les enchères de les négociations avec la partie turque. Et en cela, je pense que le régime de Erdogan s'est retrouvé un peu coincé. Et ça explique un peu la position ambiguë qu'il avait à Kobané, où on avait l'impression qu'il soutenait beaucoup plus les djihadistes que les Kurdes. Parce que d'un point de vue intérêt stratégique et politique et géostratégique, effectivement, aussi choquant que cela puisse paraître, la Turquie se sentait surtout menacée par le facteur kurde, plus que par la question de l'État islamique.
Voilà,
Cela nous permet d'introduire, de dire pourquoi la Turquie est aussi ambiguë par rapport à l'État islamique. C'est que je pense que là aussi, on est un peu trop sévère avec la politique turque en Syrie. C'est que la Turquie par rapport à l'État islamique, c'est que vous avez une frontière longue de 900 km. Vous avez le facteur kurde qui s'aggrave, vous avez des réfugiés. Et vous avez pris position pendant plus de 3 ans pour que le régime de Bachar s'en aille. Et au départ, vos alliés avaient la même position que vous. Ils vous lâchent, parce qu'on a l'impression que maintenant, les Américains, pour eux, la priorité n'est plus du tout la chute de Bachar al-Assad, mais l'État islamique. Et face à cela, le pouvoir turc se retrouve face à toutes ces difficultés. Donc, bien évidemment, pour lui, à un moment, il a été tenté de favoriser, de coopérer, de collaborer avec l'État islamique pour accélérer le processus, le départ de Bachar al-Assad, qui est, pense-t-on, à Ankara, peut-être le début d'une vraie solution pour la Syrie. À mon avis, c'est pas le cas, mais en tout cas, le départ de Bachar al-Assad pourrait quand même être un facteur, une nouvelle dynamique, engendrant une nouvelle dynamique, parce que n'oublions pas que tous les problèmes de la région depuis 3 ans, le point de départ, il faut jamais l'oublier, c'est quand même Bachar al-Assad.
Ouais.
Je pense que là, s'il faut pas non plus se tromper de priorité, et tant que Bachar al-Assad ne sera pas parti, on pourra pas régler les problèmes de la question. De la région. Oui. Et l'État islamique, là aussi on oublie de le dire, c'est qu'en fait une bonne partie des djihadistes étaient en prison, étaient relâchés volontairement par Bachar al-Assad pour aggraver la situation.
Un autre élément sans doute qui a apporté à ce puzzle, c'est la position escomptée par Recep Tayyip Erdogan, qui est le président aujourd'hui de la Turquie, auprès des Kurdes. Ce qu'il attend des Kurdes aujourd'hui, et c'est la raison principale pour laquelle sans doute ne lâche pas quand même ce processus d'apaisement, c'est qu'il compte sur les voix kurdes pour changer le régime turc en un régime présidentiel. Et il a besoin pour cela d'une majorité non plus absolue, mais plus que ça, je crois que c'est 5/8 des voix du Parlement, dont il a besoin pour changer la Constitution et en faire un régime présidentiel, bien qu'aujourd'hui, il agisse comme si nous étions en Turquie, dans un régime présidentiel. Bon, mais pas légitimer sa position de président, comme l'est par exemple François Hollande en France.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on a parlé de la question kurde. On a juste abordé, mais très très légèrement, la question des rapports avec les djihadistes, Bayram Balci. Est-ce que la position turque sur les rébellions islamistes comme Al-Nusra, donc qui dépendent d'Al-Qaïda, ou l'organisation État islamique, est dictée par des questions intérieures, c'est-à-dire une forte majorité musulmane sunnite, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que c'est juste des questions de circonstances?
Alors, on a eu un débat au Syrie avant-hier, en fait, sur cette question. On avait organisé une grande conférence. Et certains pensent qu'il y a une espèce de proximité, de symbiose idéologique entre religieuse entre le AKP et l'État islamique. Mais moi, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout.
Je suis tout à fait d'accord.
En
fait,
je ne crois pas du tout parce que l'islam turc, l'islam qui soit celui de Gulen ou de Erdogan, d'une manière générale, l'islam turc est quand même complètement différent de l'islam salafiste et wahhabite. N'oublions pas que, même traditionnellement, il y a des relations qui sont très mauvaises entre l'Arabie saoudite et la Turquie pour des raisons sur la question religieuse, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de vivre la question religieuse, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les Turcs reprochent aux Saoudiens d'avoir évincé les Ottomans des lieux saints, des villes saintes, et si vous voulez, il y a ce passif qui est assez important, et je ne pense pas du tout que la vision islamique de Erdogan soit la même que celle de l'État islamique.
Mais la vision islamique, de toute façon, de la Turquie est extrêmement pragmatique. On peut pas dire qu'il y ait une conception de l'islam préfabriquée ou en Turquie. L'islam est quelque chose de traditionnellement assez versé dans la gestion de la vie quotidienne plutôt que d'encadrer
exactement
les consciences.
Vous voulez rajouter quelque chose?
La question, c'est de dire, la question à poser, c'est de dire, mais pourquoi? Je pense qu'il appartient aux alliés, à la France, aux États-Unis, aux Européens, de demander, d'essayer de comprendre pourquoi Erdogan est-il aussi ambigu, aussi proche, on va dire. Il a des relations aussi presque cordiales avec l'État islamique. Et qu'en fait, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autre solution. C'est que l'aggravation, c'est-à-dire que l'évolution de la Syrie voit qu'en fait, elle est en train de déstabiliser, elle risque même à court terme, je dirais, de morceler la Turquie. Et il y a l'émergence de la FATF, qui est la question kurde, qui fait qu'en fait, la Turquie se sent vraiment menacée. Non. Et là aussi, j'aimerais rajouter une chose par rapport à la question kurde. Je crois que dans ces jeux d'alliance et de stratégie régionaux, tous les acteurs, il n'y en a aucun qui a été parfaitement clair. Ils ont tous été ambigus. J'y compris, par exemple, on parle de la Turquie qui a été ambiguë avec l'État islamique, mais personne ne dit. On a l'impression qu'on est en train de montrer les Kurdes comme les nouveaux démocrates, héros, libéraux, séculiers de la région. Mais là aussi, ils ont été aussi ambigus, parce que le facteur kurde, il est très largement dominé par le PKK, mais le PKK, depuis le début, a un jeu ambigu avec le régime de Bachar al-Assad. Oui. Au départ, au lancement de la révolution, de la révolte en Syrie, il y avait des démocrates kurdes qui voulaient se mobiliser pour mettre fin à la dictature de Bachar al-Assad, mais ils ont été empêchés et certains membres ont été assassinés
par le PKK.
Tout à fait
d'accord. Mais pour revenir à la position de la Turquie dans toute cette région, il faut pas oublier, enfin, vous posiez la question de l'islam, quelque chose qui ressemblerait un peu à une radicalisation du discours islamique de l'État turc, il faut la comprendre dans une concurrence pour le leadership du monde musulman entre la Turquie, l'Arabie Saoudite.
Vous écoutez RFI, l'émission géopolitique, le débat consacré à la Turquie. Je voudrais maintenant que nous abordions la question de l'Union européenne. La Turquie demande son adhésion depuis 1987, ça fait un bail. Elle a même modifié sa constitution en 2010 pour satisfaire aux exigences de Bruxelles. Pourtant, son enthousiasme n'est pas flagrant, Nora Cheny.
Oui.
Qu'est-ce qui pose problème?
Bah écoutez, c'est ce parti conservateur musulman a su utiliser la question de la candidature à l'Union européenne de façon extrêmement pragmatique et intelligente. Dans un premier temps, ils ont joué la carte européenne, hein, tout de suite après leur élection en 2002, la carte de la volonté d'adhérer à l'Union européenne, et ils s'en sont servis comme support pour se débarrasser de la mainmise de l'armée sur les processus politiques et sur les institutions étatiques. Et là, ils ont fait un sans faute. C'était la présence de l'armée, sa place dans la hiérarchie de l'État était tout à fait contraire aux normes européennes. Bon, donc là, ils ont réussi. À partir de ce moment, ça a été aussi important pour gagner la confiance du monde international, de la scène internationale, sur les orientations pro-occidentales de ce gouvernement. Et donc, jusque-là, ils ont joué le jeu. À partir des années 2010, là, ils ont changé de fusil d'épaule. L'Union européenne a été beaucoup moins, l'adhésion a été beaucoup moins importante. Et ce qui a été important, c'est le projet plus individuel de l'ex-premier ministre, aujourd'hui président, d'une mainmise de s'approprier, de confisquer le pouvoir. L'élection en 2011 où l'AKP a réuni 50% et un peu plus des voix a donné libre cours à une bifurcation dans la politique.
Et une ambition personnelle.
Une ambition personnelle et une ambition où l'Europe était une entrave parce qu'elle était vécue comme quelque chose qui venait diminuer la coloration que ce gouvernement a voulu donner au nouveau pouvoir.
Bayram Baldji, est-ce que devant le peu d'empressement des Européens, c'est un euphémisme, hein, à accueillir la Turquie en leur sein, est-ce qu'il y a aujourd'hui une tentation pour la Turquie de se tourner vers, d'avoir un autre centre de gravité, de se tourner par exemple vers les ex-républiques soviétiques qui sont des républiques turcophones ? Est-ce qu'il y a cette tentation ?
Je pense que d'abord, effectivement, j'aurais tendance à dire, à aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure Nora, c'est qu'effectivement, il a su instrumentaliser la question de l'adhésion à l'Union européenne pour s'imposer, ça c'est vrai, mais effectivement aussi, c'est qu'en fait, du côté européen aussi, ils n'ont pas été très sérieux dans le sens où, à l'arrivée au pouvoir de Merkel et de Sarkozy en Autriche, je ne me souviens plus du nom du président du Premier ministre, c'est qu'en fait, ça a créé une tendance, ils ont été d'une manière claire et nette contre l'adhésion à l'Union européenne. Mais là, je dirais qu'il y a un dialogue de sourds, un malentendu qui dure depuis 30-40 ans, et les Européens devraient clarifier leur position pour dire oui ou non, on la prend. Il y a eu plusieurs décennies des promesses d'adhésion véritables, et je pense que visiblement l'Europe ne peut pas ou ne veut pas, pour les raisons qu'on peut comprendre. Donc du coup, chez les Turcs, ça crée un sentiment de frustration qui explique aussi, en partie, le repli identitaire, l'autoritarisme, parce qu'ils voient bien qu'en fait, ils n'ont pas d'autres possibilités. Mais malheureusement, pour la Turquie, qui est en quelque sorte rejetée par l'Europe, se tourner vers le Moyen-Orient ou l'Asie centrale ou avec les républiques turcophones, etc., c'est pas non plus une solution. Donc on a l'impression que la Turquie est un peu isolée, perdue entre différents blocs, différents aires culturelles, Europe, Moyen-Orient, Iran, l'Asie centrale. Et cela explique aussi un peu le rapprochement avec des pays autoritaires comme la Russie. Et bon, alors ça s'emballe parce que malheureusement, Erdogan est obligé de se tourner vers d'autres pays qui parlent le même langage que lui.
Oui, de cavalier seul, Nora Cheney.
Oui, alors ce que je voudrais ajouter, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe, notamment la France, a tellement besoin, on a tellement besoin, l'Occident a tellement besoin de la Turquie dans cette région que on est aveugle, on ne veut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. À une réunion entre Tayyip Erdogan et Hollande, de cette réunion-là, François Hollande est sorti en disant nous avons d'excellentes relations avec la Turquie, alors que il y a plusieurs dizaines de journalistes qui sont en prison, le régime est en train de shifter vers quelque chose qui tourne le dos à la laïcité avec des nouvelles institutions éventuellement.
C'est la fin de cette émission consacrée aux ambiguïtés de la Turquie face à la laïcité, face au djihadisme, face à l'Europe. Merci à nos invités. Nora Cheney, professeur à l'Institut français de géopolitique. Je rappelle aussi le numéro d'Hérodote, numéro 148, un spécial géopolitique de la Turquie que vous avez coordonné. Et puis Bayram Baldji, par téléphone, chercheur au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Paris. Merci également à Nathalie Laporte qui a mis en onde cette émission. Merci Monsieur Bayram Baldji. Samedi prochain, vous retrouverez Marie-France Chatin. En attendant, bonne semaine à l'écoute de RFI.